des livres,
de la musique,
des jeux,
du cinéma,
des animations,
des événements,
des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission L'eau à la bouche.
L'émission de la bibliothèque et de ses amis.
Bonjour Véronique.
Bonjour Jacqueline.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une série de romans pour la jeunesse. Bon, Véronique, on a un petit peu passé l'âge, hein, mais bon, on les a quand même lus avec plaisir. Cependant, nous allons faire une petite mise au point avant de vous dire nos impressions. À l'ère d'Internet et du tout savoir tout de suite, il se pourrait que certains d'entre vous fassent quelques recherches sur le web et dès lors risquent de trouver une information déplaisante à l'encontre de l'auteur qui aurait, lors de conférences, eu des remarques désobligeantes ou des propos sexistes. Mais ceci n'est pas entré dans un cadre judiciaire. Doit-on amalgamer l'auteur et son œuvre ? La question est d'actualité. À partir du moment où il n'y a pas de prosélytisme dans le récit, c'est-à-dire que l'auteur n'essaye pas à tout prix de vous rentrer des idées dans la tête, nous faisons abstraction de l'auteur et donc nous allons vous parler de l'œuvre.
L'œuvre en question, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. C'est une saga en 13 volumes, chacun découpé en 13 chapitres. De l'auteur, donc, Lemony Snicket. Alors, Lemony Snicket, en fait, c'est un hétéronyme, donc un pseudonyme utilisé par l'écrivain Daniel Handler pour incarner un auteur fictif possédant une vie propre imaginaire. Cette saga, elle est parue aux éditions Nathan entre 1999 et 2006. L'histoire, c'est celle de trois enfants. Violette, qui adore inventer des engins, Klaus, passionné de livres, et Prunille, passionné par tout ce qui peut être mordu. Ces trois enfants perdent leur maison et leurs parents dans un terrible incendie et ils vont être confiés à un parent très éloigné, le terrifiant mais non moins rusé Comte Olaf.
Alors une petite précision sur l'âge des enfants. Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans et Prunille, selon l'auteur, entre dans la catégorie des moins de 36 mois. Alors, nous allons aborder un peu le style et l'écriture. Et l'auteur va mettre en garde le lecteur. À chaque début de récit, l'auteur interpelle lectrice et lecteur.
Un extrait du tome 6. Nulle part dans ces pages, vous ne trouverez les mots vacances ou rôleurs, et nulle part non plus, hélas pour moi, il n'est question de jugement déclaré nul. À la place, et à mon regret, vous trouverez des mots pénibles comme hanté, machination, des expressions lugubres comme pris au piège, Comte Olaf déguisé, sans parler de termes si navrants que je n'ai pas le cœur de les écrire déjà. Bref, si j'étais vous, je remettrais ce livre sur l'étagère et j'irais me pelotonner dans un coin avec le dictionnaire à la place. Et je ne l'embinerais pas, parce que les mots détestables vont faire leur entrée sous peu.
Alors évidemment, c'est un peu tentant, n'est-ce pas ? De toute manière, la lectrice ou le lecteur est prévenu. Ce n'est pas une histoire douceâtre à l'eau de rose.
Au-delà de ça, l'auteur, il interpelle très souvent sur le vocabulaire. Il nous donne les définitions des expressions et des termes qui pourraient sembler compliqués. Par contre, c'est des définitions souvent insolites, qui bien souvent ne s'appliquent qu'au contexte de l'intrigue, laissant de côté la signification générale.
Donc voici un extrait du tome 3. Il existe deux sortes de peurs. Les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. Autrement dit, les peurs justifiées et celles qui ne le sont pas. Par exemple, pour les enfants Baudelaire, avoir peur du comte Olaf était parfaitement rationnel. Ce sinistre personnage ne rêvait que de les supprimer pour faire main basse sur leur héritage. En revanche, s'ils avaient eu peur de la tarte au citron meringuée, c'était une peur irrationnelle. La tarte au citron meringuée est un excellent dessert qui n'a jamais fait de mal à une mouche. De même, la peur d'un monstre caché sous le lit n'a rien d'irrationnel du tout. Il pourrait fort bien y en avoir un, prêt à vous happer les pieds. En revanche, avoir peur des agents immobiliers est totalement irrationnel. Les agents immobiliers, comme chacun sait, ont pour métier d'aider les gens à vendre ou à acheter des logements. Le pire que puisse faire un agent immobilier, en plus de porter un costume hideux, ce dont n'importe qui est capable, c'est de vous infliger la visite d'un appartement hideux. Il est donc totalement irrationnel d'en avoir une sainte terreur. Ce type de peur, lorsqu'elle tend à s'installer, est considérée comme une maladie appelée phobie. À l'évidence, tante Agrippine souffrait d'une belle collection de phobies. Alors l'auteur a aussi des démonstrations qui sont quand même plutôt drôles et pertinentes.
Pour exemple, un extrait du tome 2. On est toujours très désemparé lorsqu'on vient de se faire démontrer par A plus B qu'on a tort, surtout lorsqu'en réalité on a raison et que c'est la personne en tort qui a démontré qu'on avait tort, démontrant à tort qu'elle avait raison. Ai-je tort ? Donc l'auteur joue avec le lecteur. Parfois il va beaucoup digresser, il abandonne le fil du récit pour parler de toute autre chose, que ce soit de sa vie personnelle, de faits divers. Par contre on se rend compte au fur et à mesure des tomes que ces digressions vont amener des éléments importants pour l'intrigue. À cela vont s'ajouter quelques petites surprises au fil des pages. On va trouver des pages vierges, une page avec un mot répété inlassablement, ou écrite à l'envers, une introduction sur le cycle de l'eau, et j'en passe.
Alors, l'auteur, donc toujours Lemony Snicket, ne se prive pas de critiquer et de parodier une certaine littérature enfantine dont il déplore la mièvrerie.
Un exemple, un extrait du tome 2. Une autre histoire de loup, que vous connaissez sûrement, me paraît tout aussi discutable. Celle du petit chaperon rouge, cette gamine sans aucun respect pour la dignité de l'animal sauvage. Bref, vous vous souvenez que le loup, après avoir dévoré la grand-mère, enfile sa chemise de nuit et se fourre dans son lit ? C'est ce passage-là qui ne tient pas debout. Comment imaginer que le petit chaperon rouge, même sans être très futé, prenne pour sa mère grand un loup en chemise de nuit ? Quand on connaît quelqu'un, grand-mère ou petite sœur, on sait d'emblée faire la différence entre le vrai et le faux.
Donc beaucoup d'humour hein, dans cette série, de l'humour assez souvent caustique. Hein. Par exemple, extrait dans le tome 6, les enfants arrivent dans le hall d'entrée de l'immeuble de leur futur tuteur. Pour tout éclairage, 4 ou 5 bougies trouaient la pénombre si chichement que les enfants n'auraient su dire si ce hall d'entrée était vaste ou pas plus grand qu'un timbre-poste. « Bon sang !» commanda Monsieur Poe. « Il fait bien sombre ici. Vous devriez demander au syndic de faire quelque chose pour mieux éclairer cette entrée. »« Impossible !» assura le portier. « Ces temps-ci, le noir est in. »« Le noir est quoi ?» demanda Violette. « In. Branché. Dernier cri !» expliqua le portier. « C'est comme ça par ici. » Une poignée de gens chics décide de ce qui est in, à la mode, ou à la page, si vous aimez mieux. Tout le contraire de out, ringard, démodé. Et ça change sans arrêt.
Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'on découvre que les ascenseurs sont out, mais les escaliers sont in, dans le noir, car rappelons que le noir est in. Les ampoules sont donc out, mais les ampoules aux pieds sont in. Et j'en passe, etc., etc. Pour reprendre l'extrait, les orphelins arrivent chez leur nouveau tuteur, Monsieur et Madame Deschmiser, pas vraiment dans la misère d'ailleurs.
« Vous savez, » dit Jérôme Deschmiser en se retournant vers les enfants, « moi, j'étais prêt à vous adopter du jour où j'ai appris la nouvelle de l'incendie. Malheureusement, il n'y avait pas moyen. »
« Les orphelins étaient out, » trancha la dame. « Personne n'y pouvait rien, alors qu'à présent, ils sont in. »
« Ma femme suit de très près tout ce qui est in ou out, » reprit Jérôme. « Pour ma part, je ne m'en soucie pas trop, mais Esmé, si, énormément. C'est elle qui a tenu à ce que l'ascenseur soit condamné. Esmé, je m'apprêtais à leur faire des martinis à l'eau. En veux-tu un aussi ?»«
Bien volontiers, » répondit Esmé. « Les martinis à l'eau sont in. » « Je me présente. Esmé, Gigi, Geneviève, Deschmiser, 6e conseiller financier de la ville par rang de chiffre d'affaires. » annonça-t-elle d'un ton altier. « Et 4e fortune du pays, mais vous pouvez m'appeler Esmé. J'apprendrai vos noms plus tard. Je suis heureuse de vous avoir ici, parce que les orphelins sont in. Et quand mes amis vont savoir que j'ai 3 vrais orphelins chez moi, ils vont en faire une maladie, n'est-ce pas, Jérôme ?
Espérons que les orphelins resteront in.
On va un petit peu vous parler des personnages.
Alors, les personnages. Eh ben, il y a les adultes, hein. Il y a Olaf, le méchant et ses sbires. Monsieur Pot, toujours dépassé et enrhumé. Et tous les personnages que les enfants vont rencontrer et chez qui ils vont être hébergés et qui seront étranges, méchants, bizarres ou loufoques. Et puis les enfants. Alors, ils ont chacun une spécialité et on sort des clichés de genre. La place des filles est tout aussi importante que celle du garçon. Ils sont complémentaires, solidaires et pleins de résilience. Résilience, ça veut dire qu'ils sont forts face aux situations périlleuses qu'ils traversent. L'auteur n'a pas un discours lénifiant et a une grande considération pour ses héros, qui, somme toute, restent des enfants surdoués, mais quand même, face à des adultes, soit foncièrement mauvais ou totalement incapables.
Donc, cette série contient aussi énormément de références, donc que ce soit des références à des œuvres littéraires, des fictions, des films, de la musique. Et je vais vous donner juste 2 exemples. On a Monsieur Pot, donc le banquier des orphelins Baudelaire, qui n'est pas sans rappeler un hommage à Edgar Allan Poe, considéré comme un des plus grands écrivains de récits fantastiques. Et pour un deuxième exemple, on a souvent des références à George Orwell. Donc dans le tome 6, l'extrait qu'on vous lisait tout à l'heure, on ne sait pas si monsieur et madame Deschmiser habitent au 48e étage ou au 84e étage, qui nous fait fortement penser à 1984 de George Orwell. Et on a aussi un personnage dans le tome 4 qui s'appelle le docteur Georgina Orwell. C'est aussi une série qui a été adaptée plusieurs fois, donc au cinéma, en série en 2019 et aussi en jeu vidéo. Cette saga, donc, à qui elle s'adresse? On trouve que le vocabulaire est soutenu, les sujets sont assez durs, on parle de deuil, de mort, les situations vécues par les enfants Baudelaire sont difficiles, et au-delà de ça, il y a un deuxième degré et un humour très caustique, donc on considère que ça s'adresse plutôt à des enfants bons lecteurs, mais aussi aux parents, ce qui pourra sans nul doute ouvrir à des discussions.
Eh ouais, et c'est toi, Véronique, qui m'a proposé cette série. Et j'avoue, je me suis vraiment prise au jeu avec ce mélange de logique, d'absurde, de suspense. Et même s'il y a des situations qui se répètent, il y a toujours un événement imprévu qui relance le plaisir d'accompagner ces 3 enfants. L'écriture est vraiment enlevée et originale, hein. Alors qu'est-ce qu'on leur dit ?
Bonne lecture !
Tentez l'aventure !
Bonjour Eva.
Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ?
Je vous présente Requiem pour une République. Alors tout commence en 1959 par l'assassinat d'un avocat algérien proche du FLN dont toute la famille est décimée. Ce meurtre, il est commandité par le gouvernement français par l'intermédiaire de la préfecture de police de Paris. Requiem pour une République, c'est un roman de série noire écrit par Thomas Cantaloube. Il mêle l'histoire française récente et un monde fictif qui s'organise autour de 3 personnages à la recherche du meurtrier. Le premier, c'est Luc Blanchard, inspecteur novice, intègre et naïf, qui s'assigne la tâche de trouver le coupable et se pose la question: s'agit-il vraiment d'un règlement de compte interne au FLN, comme le disent les autorités gouvernementales? Ensuite, Sirius Volkstrom, truand et ex-collabo, au mauvais fond, associé au meurtre, missionné par le bras droit du préfet de police de Paris, Maurice Papon, pour éliminer le tueur afin d'effacer les traces. Enfin, Antoine Carrega, ancien résistant corse, plus ou moins mafieux, au bon fond, contacté par son ex-chef de la résistance, beau-père de l'avocat exécuté, qui espère, grâce à ses entrées dans le milieu, retrouver le criminel. On est au début de la Ve République. De Gaulle, les 30 glorieuses qui, dans la mémoire collective, paraissent comme des années fastes et ne fut cependant pas une période si idéale qu'on le croit. Ce fut une période très violente et trouble. J'étais enfant dans ces années-là et je me souviens de slogans criés depuis des fenêtres des geôles de la prison de la santé à Paris dont mon immeuble faisait face. Algérie française, Algérie française, vociféraient les gens de l'OAS. Algérie, algérienne, Algérie, algérienne, répondaient les emprisonnés du FLN. Les prisonniers s'envoyaient des colis et des messages à l'aide de longues cordelettes lancées par les fenêtres d'une cellule à l'autre. Il y eut même, certains soirs, des sortes de rébellions de je ne sais quelle partie, où les prisonniers s'envoyaient à l'aide de ces mêmes cordelettes des boules enflammées tout en criant. Tout ce capharnaüm durait plusieurs dizaines de minutes avant que les gardiens ne sévissent. Dans ce roman, on y voit une France empêtrée dans la mémoire de la guerre où d'anciens collabos sont encore aux manettes. Maurice Papon, personnage complètement incroyable, préfet de police de Paris, qui contribua à la déportation des Juifs, organisa la répression algérienne à Paris en octobre 1961 et finit sous le gouvernement Giscard. On y voit l'avidité néocoloniale pointée derrière l'indépendance algérienne et les connexions entre le milieu et le pouvoir. L'OAS, organisation de l'armée secrète d'extrême droite, se mélange avec d'anciens résistants. On y voit aussi la fondation du SAC, le service d'action civique, officine parallèle au service du général de Gaulle, organisation qui était réputée musclée. On y croise Mitterrand, Michel Debré, Jean-Marie Le Pen, pas encore installé politiquement. Entre les bas-fonds et les hautes sphères, il n'y a parfois que de rares échelons et une convergence d'intérêts. Celle-ci commande dite, cela exécute. Voici un petit extrait. Il dévisageait ses étranges compagnons de soirée, un ramassis baroque de gaullistes déçus qui se repéraient à leurs beaux costumes et leur air supérieur, des pieds noirs qui parlaient bruyamment avec un fort accent méditerranéen et qui semblaient les plus acharnés, des bons hommes à l'air sombre qui crachaient leur haine des crouilles et des youpins en regrettant Pétain ou le Duce, qu'il prononçait le douché. Et puis il y avait quelques figures comme lui, silencieuses, aux cheveux courts ou rasés, avec l'air de ne pas savoir comment tenir en place dans un fauteuil. Des soldats, des combattants perdus, des gros bras, la piétaille de l'OAS dont il faisait partie. Le héros principal appartenant à la résistance et trafiquant de drogue s'acoquine avec des gens appartenant à la Gestapo et à la milice. Tous ces gens sont dans des eaux troubles. Les situations sont cocasses mais véridiques, comme l'attentat du train Strasbourg-Paris en 1961, disparu de la mémoire collective. 24 morts et 132 blessés quand même. L'affaire de l'Observatoire de Paris, faux attentat visant censément Mitterrand. Cette chasse à l'homme est en scène des personnages romanesques et truculents à la Audiard. Livre captivant et rendant hommage au premier roman de la série noire, il semble avoir été écrit comme le scénario d'un film des années 50 où l'on imagine Delon et Gabin dans une déesse noire. Un petit chef-d'œuvre écrit par un journaliste dont c'est le premier roman. Une pépite. Requiem pour une république de Thomas Cantaloube, série noire, chez Gallimard.
Et Olivier, est-ce que Thomas Cantaloube a écrit d'autres livres après ?
Oui, il a écrit une suite qui s'appelle Fracas, qui se passe au Cameroun.
Et je pensais, j'ai une dernière question. J'ai lu un jour une interview de Caril Ferret, je pense à lui, parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup aussi ses polars, et lui disant qu'il écrivait toujours en écoutant de la musique, avec la musique. Donc pour toi, quelle est la musique qui pourrait accompagner la lecture de ce roman de Cantaloube ?
Il n'y en a qu'une, c'est le clan des Siciliens, d'Ennio Morricone.
Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter trois bandes dessinées autour de la musique. Chacune a bien sûr son propre style et les auteurs ont fait des choix bien marqués. C'est une des choses qui m'a plu à la lecture. C'était une bonne découverte pour moi, la lecture de ces trois bandes dessinées. La première, Ludwig et Beethoven, de Michael Ross, est parue cette année chez Dargo. La seconde, Beethoven, le prix de la liberté, de Régis Penet, nous vient de la boîte à bulles. Et la dernière bande dessinée, de Franz Duchazot, est publiée chez Casterman et intitulée Mozart à Paris. Avant d'entrer dans le détail de chacune, je dois dire donc que j'ai été très agréablement surprise par ces BD, car oui, il y a un caractère biographique, mais il ne s'agit pas de BD documentaires ou didactiques, du genre la musique pour les nuls, qui aurait pour but de nous enseigner que Mozart est bien né à Salzbourg en 1762. Il y a vraiment une originalité, un désir de création dans ces bandes dessinées, dans lesquelles les auteurs ont choisi un moment bien précis de la vie des musiciens, avec un parti pris, un angle de composition subjectif et le revendique tout à fait bien. Donc la première bande dessinée, Ludwig et Beethoven de Michael Ross. Je vous montre la couverture qu'on voit en studio mais que les auditeurs ne verront donc pas, avec un dessin des couleurs très vives et un dessin emporté. Le contexte en gros, 1778, le jeune Ludwig est là aux côtés de ses frères, qui ont un humour plutôt trivial. La BD s'ouvre en rase campagne, dans la neige. Les garçons sont là, les trois garçons frères sont là, rencontrent trois autres jeunes gens qui malmènent et insultent Ludwig, alors que ses frères prennent la poudre d'escampette. Le contexte est posé, et dès le début, on voit un jeune Ludwig qui se réfugie dans la musique, avec des voisins qui menacent de le mettre à la porte pour le bruit qu'il provoque. Les moqueries, les railleries et une ambiance sociale et familiale plutôt difficile. La relation avec le père aussi est assez présente. Il veut faire de lui un enfant de foire, comme d'ailleurs, on le verra, le père de Mozart l'avait fait pour son fils. Mais à cette différence, c'est que le père de Beethoven est plutôt du genre ivrogne, endetté et appâté par l'idée de tirer profit de son fils. Il y a beaucoup d'éléments qui sont effectivement réels et très précis. Beethoven était petit-fils et fils de musicien, mais il a eu une éducation musicale lacunaire et il a été atteint, je pense que tout le monde le sait, de sourdité précoce. En tout cas, tout chez Ludwig révèle de beaucoup de dualités. On voit un destin et une vie compliquée. Et l'auteur Michael Ross dépeint cette jeunesse du génie avec une grande énergie et beaucoup de virtuosité. J'ai aimé aussi toutes les ambiances, toute la colorisation des ambiances colorées. Aussi un parti pris de cases qui explosent d'ailleurs les cases de dessin, qui sortent des cases complètement psychédéliques au moment où Beethoven se met au piano. Je pense en tout cas que c'est une BD, même sans aimer la musique de Beethoven, qui peut être franchement sympa à lire, et donc je la recommande. Pour la deuxième bande dessinée, on va rester autour du même personnage. À nouveau Beethoven. Cette fois-ci, la BD est de Régis Penet. S'appelle Beethoven, le prix de la liberté. Alors là, on est dans un tout autre style. C'est plutôt classique. Des images, des dessins en noir et blanc, avec des gris très très peaufinés, une narration peut-être plus lente, avec des portraits très précis et très expressifs. Tout comme aussi des gros plans sur les mains que j'ai trouvé, des mains jouant du piano que j'ai trouvé très réussies. Là, on part d'un autre épisode. En 1806, Beethoven refuse de jouer devant des officiers français et il se brouille avec son ami et protecteur. On voit à travers cette petite anecdote l'intérêt et ce qui traverse, à mon avis, le point commun qu'il y a entre les trois bandes dessinées, c'est l'effort de, que ce soit de Beethoven ou de Mozart, un effort de détachement par rapport à cette société noble et des grands dont ils étaient complètement dépendants pour leur création, alors que eux-mêmes avaient un désir très fort de composer des œuvres originales. Toute l'histoire est racontée par le fils du prince von Lischowski, au moment de la, donc après la bataille d'Austerlitz. La surdité, c'est un moment où la surdité de Beethoven apparaît de plus en plus handicapante. Il y a, donc je le redis, un dessin réaliste qui est magnifique, des nuances de noir, blanc. Voilà, splendide.
Faites attention à celui-là, car dans quelques années, il fera parler de lui, dit Mozart en 1770, lorsqu'il entend Beethoven.
Ah, j'entends donc la possibilité de parler de la troisième BD avec cette transition, qui s'appelle Mozart à Paris, de Franz Duchâteau, et là aussi, qui est surprenante. Il y a vraiment un contraste entre des personnages qui sont presque, et surtout celui de Mozart, qui est presque caricatural, un petit bonhomme avec un gros nez qui passe presque inaperçu dans au milieu de cette société, avec un travail de graphisme très très beau, des vues d'un Paris médiéval, sale, avec des rues étroites, un Paris donc avant Haussmann, des vues aériennes très soignées, plein de détails, couleurs, là, des contrastes, un travail à l'encre de Chine, une très belle bande dessinée avec un effort de narration visuelle très détaillé. Pour le contexte, donc on est à Paris en 1777, Mozart a 21 ans, et c'est un épisode qui n'est pas très très connu de la vie de Mozart. C'est son deuxième séjour parisien, puisqu'il avait fait déjà, il était venu une première fois à Paris quand il avait fait des tournées avec son père, l'avait amené partout en Europe, comme on évoquait tout à l'heure, un peu pour faire l'enfant de le singe savant. Donc les Parisiens ont gardé cette image de Mozart, et là Mozart est confronté à cette difficulté. Il a grandi, il a 21 ans, il a des aspirations et notamment une très grosse envie d'écrire un opéra, et il attend impatiemment la commande d'un opéra qui ne viendra pas. On voit en tout cas que la vie de Mozart n'est pas du tout facile. Contrairement peut-être aux idées reçues, il n'a pas du tout eu de tapis rouge à son arrivée à Paris comme ailleurs, et là aussi des difficultés avec la société de nobles auxquels il ne sait pas toujours répondre avec les codes. Lui se revendique avant tout musicien et non pas apte aux mondanités. Donc le point commun de ces trois titres, c'est de ressortir pour moi comment Mozart ou Beethoven ont l'un et l'autre été confrontés au même dilemme. Tous deux se sont retrouvés face à la difficulté de répondre aux contraintes imposées par les puissants, de qui ils dépendaient très matériellement pour leur salaire, les commandes de création, puisque à cette époque les musiciens n'étaient pas indépendants, mais étaient employés à la charge d'une cour, travaillaient pour une cour, et en fait on voit qu'ils se sont usés à ça, alors qu'ils avaient un besoin impérieux d'écrire de nouvelles œuvres à travers des formes novatrices pour l'époque et qui les imprégnaient totalement. Donc trois bandes dessinées qui réjouiront, je pense, amateurs de musique, mais aussi amateurs du 9e art.
Il faut quand même noter que tous ces ouvrages présentés aujourd'hui, Eva, on les trouve où ?
Ah bah oui, bien sûr, effectivement, on peut les trouver à la bibliothèque de Florac. Allez, et s'il faut envoyer vers un petit peu d'écoute musicale, je peux vous conseiller, en année 1777, donc l'année en question dans la BD Mozart à Paris, c'est l'année de l'écriture du 9e concerto pour piano, dit concerto pour jeune homme de Mozart.
On connaît actuellement un âge d'or du jeu.
Bonne chance pour cette fabuleuse course au trésor.
C'est du concret, c'est du tactile, c'est du sensoriel. Salut Marc, salut Véro.
Salut Stéphane, salut Marc.
Bon, salut Stéphane, salut Véro. Ouais. Comme ça, c'est fait. Alors, on va parler de jeux de société, hein, pour changer. Et je vais vous poser une question. Et vous allez essayer d'y répondre. Donc, quel est le point commun entre ces trois jeux de société, Assoul, Flamme Rouge et Qui coule coucou.
Il y a le son OU.
Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça. Est-ce qu'il y a vraiment un point commun, en fait?
Eh bien, en fait, à part que ce sont tous les trois des jeux de société, ils abordent le jeu d'une manière assez différente, en fait. Et donc, c'est ça ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va aborder le jeu de différentes manières. Par sa mécanique,
sa thématique
et son matériel. Qui sont les trois composantes, en fait, d'un jeu de plateau.
D'un jeu de société dit moderne, je préfère un jeu de plateau.
Ok, Véro.
Kikoul Kikou n'étant pas un jeu de plateau.
Et alors, il se trouve que justement, on a découvert sur un site sympathique, on va faire une petite pub qui s'appelle Gus & Co, qui est un site de nos amis helvètes. Ils ont mis en place une typologie, un indice qui permet d'effectuer une typologie où ils mettent en rapport justement ces éléments. Enfin, deux éléments en fait.
Thématique et la mécanique surtout.
Voilà. Et alors, ça va de 1 à 5. Et on a, à 1, on a un jeu abstrait où il n'y a pas de thème en fait. Et on va jusqu'au 5 où on a un jeu très immersif où la mécanique est plutôt secondaire par rapport à la narration et au récit. Et donc c'est cette combinaison qui est intéressante et nous on va essayer d'approfondir ça.
Donc voilà, et donc par exemple dans Flamme Rouge on va être plutôt dans un item qui va plutôt se rapprocher de 4 à mon avis, vu que là c'est vraiment la thématique qui prime sur la mécanique, on va dire. Donc là la thématique est assez forte, c'est une course cycliste. Et la mécanique, bon, on parlera des différentes mécaniques après, mais la mécanique est un peu plus secondaire et elle va plutôt s'adapter à la thématique.
Alors, par contre, pour Kikoul Kikou, en fait, il y a une thématique quand même intéressante qui est de construire son nid, construire un nid, donc les oiseaux, le nid. Mais ce qui fait l'originalité du jeu, c'est pas la thématique, c'est vraiment le matériel. C'est un jeu où la boîte sert de base pour jouer et où l'élément principal du jeu, ce sont des baguettes avec des extrémités colorées qui nous rappellent très fortement le Mikado. Et pour autant, c'est pas un jeu de Mikado.
Alors ensuite, troisième jeu dont on va vous parler aussi, c'est Azul. Et celui-là, par contre, c'est un jeu où la mécanique est forte. Il y a une thématique qui est de rassembler des petits carreaux de faïence. Mais en fait, on voit bien que c'est un peu un prétexte. Et c'est surtout la mécanique pour rassembler, pour gagner des points, qui va être primordiale.
Et donc après cette interaction-là entre mécanique et thématique, donc il y a une troisième composante qui est quand même assez importante aussi à prendre en compte, c'est le matériel. Ce qui m'intrigue surtout, c'est quel type de matériel on va utiliser, si on va plutôt utiliser des dés, des cartes, des Mikado par exemple, ou d'autres types de matériel. Donc là par exemple, il y a un jeu qui va bientôt rentrer à la bibliothèque qui s'appelle Nouvelle Contrée, qui utilise des marque-pages, donc ça m'intrigue assez.
Moi, par exemple, je sais que le matériel ne me suffit pas. En tant que joueuse, quand je choisis un jeu, je vais pas m'arrêter à si c'est des cartes, des dés. Par contre, le design, l'aspect esthétique du jeu va être primordial. C'est ce qui va m'amener au jeu dans un premier temps.
Oui, ce qui fait qu'en fait, on complète finalement l'indice item de Gus & Co en mettant le matériel. Et dans le matériel, on inclut le design, effectivement, ouais. qui est essentiel. C'est pas seulement la carte, c'est ce qu'il y a dessiné dessus. Et on voit que d'ailleurs, de plus en plus, il y a un effort réel de pas mal de jeux. Hein, on a un jeu d'ailleurs à la bibliothèque, je crois c'est Codex Naturalus,
ouais.
Avec des belles cartes où il faut assembler des cartes, les compléter les unes les autres pour marquer un maximum de points. Mais surtout dessus, il y a des superbes dessins d'animaux.
Sur le thème de l'enluminure.
Voilà, sur le thème de l'enluminure médiévale, ouais. qui fait que c'est magnifique et que c'est vrai, ça fait partie du plaisir pour jouer. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme type de mécanique finalement? Est-ce que dans Flamme Rouge notamment?
Alors dans Flamme Rouge, donc la mécanique principale, je pense que ça reste quand même le deck building, donc c'est-à-dire la gestion d'un paquet de cartes. C'est-à-dire qu'on va avoir des cartes de différentes valeurs qui vont nous permettre en fait d'avancer nos coureurs sur la piste. Mais par contre, une fois qu'on utilise une carte, on ne peut plus la jouer. Elle est perdue à jamais. Donc du coup, il va falloir gérer son énergie en quelque sorte pour pouvoir avancer.
Avec une notion de programmation de sa main de cartes.
Ouais, aussi de programmation et aussi essayer de deviner un peu ce que les autres vont faire aussi.
Et toi, Véro, dans Kikoul Koukou, c'est quoi la mécanique? Il y a une mécanique qui est...
Alors, Kikoul Koukou, c'est un jeu d'adresse, tout simplement. Donc, dextérité. Ça va pas plus loin en termes de mécanique.
Alors, moi, j'ai un problème pour Azou. Je trouve que c'est pas évident. On pioche des faïences sur des petits plateaux circulaires qui sont des fabriques dans lesquelles sont supposées être fabriquées les faïences pour les mettre sur son plateau de jeu. Et il faut les assembler. Et je dirais, c'est un peu le principe du Sudoku. En fait, on faut pas en mettre plus de 1 par colonne et par ligne, et il faut essayer de les aligner pour faire le maximum de points. Donc je dirais peut-être que c'est un jeu de combinaison.
Avec des choix forts à faire sur les tuiles qu'on va récupérer pour que ça coïncide après avec son mur qu'on est en train de construire. Ouais, donc combinaison.
Voilà. Alors du coup, ça nous permet de faire un petit aparté sur le nombre de mécaniques. Il y en a quand même un paquet. On en a listé quelques-uns.
Il n'y a pas de classification d'ailleurs officielle en fait. Chaque professionnel du jeu va faire plus ou moins sa classification. Ça va être non exhaustif hein, parce que c'est très très large. Donc on a par exemple les jeux de programmation, les jeux de négociation. Alors si vous avez des exemples de jeux...
Comment ça fonctionne un peu la négociation? Il y a pas mal d'interactions là-dedans j'imagine. Dans la négociation.
Ah ben c'est des jeux très interactifs où on va avoir besoin de négocier avec les autres joueurs pour faire des échanges de ressources, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. On va avoir des jeux de placement de tuiles.
Ouais, donc là, par exemple, Carcassonne.
Carcassonne, ouais. À la bibliothèque, ouais. Qui
rentre la guerre des moutons, aussi.
Aussi. Des jeux de Roll and White. Alors, il y en a un qui va bientôt rentrer à la bibliothèque. Ce sera le premier qu'on aura. Je ne sais plus le titre.
Il faut peut-être dire en français ce que ça veut dire, Roll and Write.
Alors, jeter et écrire. C'est des jeux où on va jeter des dés, pour la plupart. Et en fonction du résultat des dés, tous les joueurs vont avoir une grille sur laquelle ils vont devoir faire un choix. Chaque joueur fera son choix. Donc, on part sur la même base de ce résultat de dés pour arriver à des résultats différents sur notre grille avec un objectif qui est défini,
d'ailleurs,
qu'on doit atteindre.
Le jeu qui va rentrer, c'est Cartographers.
Voilà, merci.
Et qui n'est pas un roll and write, vu qu'on ne va pas jeter des dés, mais plutôt on va tirer des cartes.
D'autres exemples, le Stop ou Encore, que j'affectionne particulièrement, où généralement c'est des jeux de prise de risque, souvent basés sur le dé aussi, le jet de dé. Et l'intérêt de ces jeux, c'est de trouver le moment où on va s'arrêter, parce que si on ne s'arrête pas à temps, on risque de tout perdre.
Ouais.
Est-ce que d'autres exemples peut-être?
Sinon, il y a des jeux d'objectifs secrets où en fait les objectifs peuvent être connus de tous ou certains peuvent avoir des objectifs secrets par rapport à d'autres. Il y a des jeux de rôle caché. Alors avec un très connu par exemple comme Bang qu'on a à la bibliothèque. Il y a Loup-Garou aussi.
Ouais, Bang, il y a aussi Scotland Yard. Ah non, Scotland Yard c'est pas caché. Non, je confonds.
Donc il y a des jeux de bluff aussi où on fait croire quelque chose mais on sait pas si c'est vrai ou pas. Jeux de construction, jeux de combinaison, il faut associer différents éléments pour gagner plus de points. Donc voilà. Donc il y en a une tonne et il y a un élément qui était intéressant, ce que tu as dit sur les interactions. Je pense que c'est aussi un des indicateurs de ce fameux site dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a une échelle en fonction de l'interaction dans les jeux. Parce qu'il faut savoir aussi que les jeux peuvent être plus ou moins coopératifs ou plus ou moins individuels. C'est-à-dire que soit vous avez des jeux de gestion où vous faites les trucs, vous utilisez les mécaniques, vous faites fonctionner la mécanique dans votre coin. Soit au contraire, vous pouvez bloquer l'autre ou interagir ou ça peut être très coopératif. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. On a parlé de nous, on insiste beaucoup sur ces trois composantes matérielles, mécaniques, thématiques, mais il y a aussi interaction ou pas.
Qui dépend souvent de la mécanique, finalement, cette interaction. À la bibliothèque, on a classé les jeux, on a mis une petite étiquette pour donner une info sur justement l'interaction qu'il y a dans le jeu. On a classé, il y a des jeux solo, où on joue tout seul, souvent des casse-têtes. Il y a les jeux duels, où c'est des jeux vraiment pour deux joueurs, où on est en affrontement. Les jeux basés sur la compétition. On a sinon.
Donc ça, c'est la plupart du temps, c'est des jeux qui sont basés sur la compétition. Hein. Donc, par exemple, Flamme Rouge, Assoul.
Il y en a un qui gagne.
Ouais.
Ouais. Les jeux coopératifs. Et enfin, les jeux asymétriques, où généralement on a un joueur contre les autres, ou alors il y a deux camps, mais qui ne sont pas équitables, comme dans les loups-garous de Tercieleux qu'on citait il y a deux minutes.
Comme dans Bang, exactement aussi.
Et les jeux d'équipe, qu'on retrouve souvent dans, par exemple, les jeux de questions-réponses, comme le Trial Poursuite, pour citer un jeu que tout le monde connaît.
Tu te mets combien, qui est aussi à la bibliothèque. Un jeu de questions-réponses assez délirant, d'ailleurs.
Et moi, je tiens à préciser, en tant que joueuse, pour partager mon expérience, ce qui va me faire venir à un jeu, c'est effectivement d'abord le design, ce que je disais tout à l'heure, les illustrations, donc le matériel. Mais par contre, si la mécanique ne prend pas, je ne vais pas revenir au jeu. Donc ça deviendra à terme l'élément principal pour moi en tant que joueuse.
Ouais. Moi, c'est vraiment la thématique qui est importante. Si la thématique est très présente, je peux faire éventuellement l'impasse sur une mécanique un peu plus vaseuse, bien que bon, la mécanique reste quand même très importante. Et puis le matériel aussi a quand même une belle place, un beau jeu. Il y a rien à faire, va toujours être attrayant.
Ouais, c'est clair. Moi aussi, je pense que la thématique est importante. Et d'ailleurs, sur ce plan-là, on voit qu'il y a une créativité exceptionnelle des concepteurs de jeux. Et on a des thématiques très variées.
Alors moi, la première thématique qui me vient en tête, c'est on a pas mal de jeux qui sont basés sur des références littéraires, en fait. Donc, à la bibliothèque, on a Trône de Fer.
Des Sherlock Holmes. Voilà. On a plein de jeux sur Sherlock Holmes.
Robin Hood avec Robin des Bois. Ouais. Donc, c'est la première qui me vient à l'esprit.
Ouais. Sinon, sur les pirates, on a aussi, par exemple, les pirates, c'est une thématique qui marche bien. On a un jeu, c'est L'île au trésor.
Mais
on a Jamaïca aussi, qui fonctionne très bien.
De nouveau, un jeu de course qui fonctionne très bien. Puis il y a aussi des thématiques plus à caractère plus géographique, comme par exemple sur l'Asie, où ici on a Hanabi ou encore Takenoko. Ce que tu disais en off tout à l'heure dans la préparation, je trouvais, c'est que vraiment en fait chaque élément de la vie peut engendrer une thématique.
Oui, on a par exemple l'alimentation avec soupe de cafard qui peut rentrer là-dedans.
Mais il y a aussi par exemple la maladie
avec l'Escape Tale, le Awakening. Mais dis-le, tu le dis mieux que moi.
Escape Tales, The Awakening.
Ah, ouais, superbe. Enfin. Voilà, c'est très varié. Les cowboys aussi avec Bang, le rêve avec Dixic, When I Dream, les fantômes avec Mysterium, la marine et l'histoire avec Race to the Newfoundland. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Donc, en fonction de vos intérêts, vous pouvez choisir un jeu et vous immerger dans un contexte qui vous fera rêver.
Et puis il y a les jeux aussi à caractère historique et qui veulent aussi nous rendre un peu plus intelligents.
Tout à fait. Bah, carte aventura qu'on va avoir bientôt.
Carte aventura qui va nous apprendre vraiment un pan de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. En fait, le jeu est très vaste et qui a vraiment de multiples manières d'aborder un jeu et de nous intéresser vraiment à la ludophilie.
Peut-être pour finir, on vous a parlé essentiellement. Enfin, on est rentré dans le détail de trois jeux. On va juste peut-être finir sur ces trois jeux. Donc, je vous ai parlé de Kikou le Coucou. C'est un jeu pour 2 à 5 bâtisseurs de nids à partir de 4 ans. Donc, jeu familial qui peut avoir un réel intérêt aussi pour les adultes. C'est un jeu d'adresse de Joseph Maria Alloué et Victor Bautista Hiroka. Ce jeu est édité par ABBA. Et il a été primé au Festival de Cannes dans la catégorie jeu de l'année enfant. Voilà.
Alors, en ce qui concerne Azul, donc, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4 à partir de 8 ans. Mais moi, ma fille joue depuis qu'elle a 6 ans, qui dure 30 à 45 minutes. Et c'est un jeu de l'auteur allemand Michael Kiesling, qui est un concepteur assez connu, qui a fait aussi un jeu qui s'appelle Pueblo, où vous bâtissez des pyramides, et qui a eu l'As d'or de Cannes 2018. Donc, on vous a déjà expliqué, à Cannes, il n'y a pas que du cinéma, il y a aussi un festival des jeux, qui est le principal festival de jeux en France, et qui donne des récompenses aux meilleurs jeux. Voilà.
Ouais. Et donc, moi, je vous ai parlé de Flamme Rouge. Donc, c'est un jeu de Asger Harding Granerud. Voilà. Je ne le dirai pas deux fois. Et donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue entre 30 et 45 minutes, parfois un peu plus longtemps, ça dépend, mais 30 minutes ça me paraît court quand même. Et ils mettent à partir de 8 ans, je pense qu'on peut y jouer un petit peu plus avant parce que les règles sont assez faciles en fait, et il n'y a pas de texte à lire non plus, donc c'est très intuitif comme jeu. Et donc c'est un jeu qui est édité par Gigamic. Moi, j'y joue toujours avec une bande son. Je mets toujours du Yvette Horner en fond. Ça marche toujours très bien.
Et en plus, il y a des extensions, hein, il me semble.
Ouais, il y a des extensions. Donc moi, j'ai par exemple une extension qui permet de jouer à 6 joueurs et qui rajoute des tuiles aussi pour faire un Paris-Roubaix mémorable, par exemple.
Eh bien, merci beaucoup pour ces informations. Merci Véro. Merci Marc.
Ben oui.
Merci.
Merci vous deux.
Au revoir.
Bon jeu.
Bonne lecture.
Et rendez-vous à la bibliothèque.
Des livres.
De la musique.
Des jeux.
Du cinéma.
Des animations.
Des événements.
Des rencontres.
À Radio Bartas, on vous parle de nos coups de cœur.
L'eau à la bouche, une émission proposée par la bibliothèque de Florac Trois-Rivières et ses amis.